Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Lundi 23 novembre, bienvenue sur Europe, un bon réveil en ce lundi matin. Tout de suite, votre journal avec Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Précisément 6 heures.
Les plus jeunes sont ceux qui sont les moins enclins à vouloir se faire vacciner. Mais même chez les sujets potentiellement à risque, il y a une certaine méfiance.
6 Français sur 10 se disent prêts à se faire vacciner. Résultat d'un sondage exclusif pour Europe 1 ce matin, à condition que le vaccin soit européen, voire français. Nicolas Sarkozy devant la justice, l'ancien président comparé dans l'affaire dite des écoutes, jugé pour corruption. Il continue de clamer son innocence. Dans ce journal, cette réunion sera-t-elle enfin la dernière? Syndicats et patronats ont rendez-vous aujourd'hui pour trouver un accord sur le télétravail. 7 militaires devant la justice, poursuivis pour homicide involontaire après la noyade d'un élève officier de Saint-Cyr, c'était il y a 8 ans. Et puis l'appel à l'aide des maires de stations de montagne. Leur réouverture est cruciale à l'approche de Noël.
Après le journal, on va souhaiter un bon anniversaire à Charlie Hebdo. 50 ans que l'hebdomadaire chronique et caricature le monde. Mon invitée inattendue a littéralement grandi avec Charlie. Elle est la fille de l'un des créateurs. Elle nous raconte dans un quart d'heure comment Charlie s'est toujours battu pour défendre dans sa liberté absolue. Puis on retrouvera Fanny Agostini pour Notre Planète. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Si un vaccin efficace contre le Covid-19 était disponible, seriez-vous prêt à vous le faire administrer? Oui, répondent 60% des Français, selon les résultats de l'enquête menée par l'Institut BVA qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Alors 60%, c'est pas mal, Victor Delande, mais en réalité, il y a quelques nuances à prendre en compte.
C'est vrai, 6 Français sur 10 sont partants, c'est beaucoup, mais seulement 20% envisagent de le faire dès que possible, tandis que les autres préfèrent attendre un peu, parce que l'inquiétude est là. Le souci majeur pour les 3/4 des personnes interrogées, c'est la rapidité de conception du vaccin. Ensuite, la peur des effets secondaires est également très présente, 73% de nos concitoyens la partagent. Très intéressant également, les réponses sur la provenance du vaccin. 6 personnes sur 10 déclarent que le pays d'appartenance du laboratoire pharmaceutique qui aura trouvé le sérum n'est pas déterminant dans leur choix. Mais au-delà de ces déclarations de principe, quand on leur pose la question directement, autrement dit, quand on évoque précisément des pays, les réponses sont très partagées. Ainsi, moins de 20% des Français accepteraient un vaccin s'il était conçu dans un laboratoire pharmaceutique russe ou chinois. À l'inverse, ils sont 3 fois plus nombreux, 64% à dire oui à un vaccin d'un laboratoire européen, et encore plus nombreux, 72% s'ils provenaient d'un laboratoire français.
Victor Delande, et aux États-Unis, si on veut entamer la campagne de vaccination au plus vite face à la flambée de l'épidémie, les autorités espèrent commencer à vacciner avant la mi-décembre pour viser une immunité collective en mai.
À la une aussi aujourd'hui, ce sera l'image du jour, Nicolas Sarkozy au tribunal. Il sera jugé à partir d'aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes.
Et c'est une première dans l'histoire de la 5e République. Un ancien chef d'État jugé pour corruption devant le tribunal correctionnel. Nicolas Sarkozy comparé donc pour corruption et trafic d'influence pour avoir tenté d'obtenir de la part de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert des informations couvertes par le secret dans une procédure judiciaire. Lui aussi sera jugé, ainsi que l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog. En tout cas, Chloé Triomphe, l'ancien président se montre combatif et bien décidé à prouver son innocence.
Oui, ses proches que nous avons pu rencontrer l'affirment. Nicolas Sarkozy est déterminé à s'expliquer publiquement après plus de 50 heures d'interrogatoire devant les policiers et les juges pour une affaire qu'il estime grotesque, tout en rappelant que dans cette affaire de corruption, il n'y a pas un seul centime en jeu. Il s'agit en réalité d'une demande d'information couverte par le secret, sollicitée par l'avocat de Nicolas Sarkozy auprès d'un haut magistrat. En droit, quel que soit le résultat obtenu, s'il y a un lien entre le service demandé et la contrepartie promise, cela caractérise la corruption et le trafic d'influence. Mais la défense de l'ancien chef de l'État affirme que cela ne repose sur aucun élément concret hormis les écoutes téléphoniques, des écoutes que les avocats pourraient d'ailleurs contester dès le début de l'audience. Quant au contenu de ces fameuses conversations qui ont brutalement changé de ton, faisant penser aux enquêteurs que les intéressés ont pu être mis au courant par un tiers qu'ils étaient écoutés, là encore la défense fait valoir que ce n'est pas le cas et met en avant le fait que l'enquête préliminaire sur l'origine de cette possible fuite a débouché au bout de presque 6 ans sur un classement sans suite.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Le procès devrait s'ouvrir en début d'après-midi. Devrait, car il pourrait être renvoyé à la demande de Gilbert Azibert pour raison médicale.
Emmanuel Macron prendra la parole demain soir à 20h pour clarifier les assouplissements des mesures sanitaires à venir.
Assouplissement qui devrait intervenir en plusieurs étapes. D'abord, autour du 1er décembre, avec la possibilité possible réouverture des commerces après un mois de fermeture. Le gouvernement avait par ailleurs annoncé un renforcement du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. Et Carole Ferry, ça y est, la plateforme fonctionne.
Oui, alors ça y est, ça fonctionne. C'est exactement la même démarche que pour le fonds de solidarité de 1500 euros du premier confinement. Sauf que là, il a fallu rajouter les nouvelles aides, donc ça a pris un peu plus de temps pour le mettre en ligne. Mais attention, si vous faites la demande ce mois-ci, c'est pour le mois d'octobre. Il y a toujours un mois de décalage puisque l'aide dépend de la perte de chiffre d'affaires mensuel. Ce mois-ci, la démarche concerne donc surtout les restaurants qui ont beaucoup perdu à cause du couvre-feu. Pour tous les commerces qui ont été contraints de fermer en novembre, les demandes d'aide pourront se faire début décembre. Ça peut paraître long, mais la Direction générale des finances assure qu'une fois la demande faite, les sommes sont versées sous 48 heures. Par ailleurs, les bars et restaurants qui vont devoir rester fermés plus longtemps auront droit à de nouvelles aides spécifiques pour la suite. Ce ne serait plus un fonds de solidarité plafonné à 10 000 euros, mais un pourcentage du chiffre d'affaires perdu. Des précisions sont attendues cette semaine.
Explication signée Carole Ferry.
Les partenaires sociaux vont-ils enfin se mettre d'accord sur la réglementation du télétravail ? Nouvelle réunion sur le sujet entre syndicats et patronat cet après-midi.
Une réunion espérée comme la dernière avec l'objectif de trouver un accord national. Mais une fois encore Olivier Samin, les positions sont encore éloignées sur pas mal de points.
Oui, la grande interrogation, c'est de savoir si le patronat va finalement accepter que le texte qui sortira de la négociation crée de nouvelles obligations pour les entreprises. Jusqu'à présent, il ne le voulait pas. Il estime qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en droit et que le but de la négociation, c'est seulement de clarifier les règles existantes pour permettre aux entreprises de les appliquer plus facilement. Les syndicats, eux, exigent de nouvelles obligations. Quand il s'agit, par exemple, de définir les postes télétravaillables, ils réclament que ce soit négocié dans l'entreprise. Le patronat estime, lui, que ce sujet relève du seul pouvoir de l'employeur. Autre sujet qui coince, la prise en charge par l'entreprise des frais occasionnés par le télétravail, l'abonnement Internet, par exemple, ou les frais de chauffage. Le texte prévoit cette prise en charge, mais les syndicats le jugent ambigu et ils voudraient que dans chaque entreprise, un forfait de quelques dizaines d'euros par mois soit institué. Enfin, le texte prévoit tout un chapitre sur le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, comme l'actuelle pandémie. Dans ce cas de figure, c'est l'employeur qui décide de basculer ses équipes en télétravail. Les syndicats, notamment FO, veulent que cette décision relève directement des pouvoirs publics.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Europe 1. Il y a 8 ans, un jeune élève officier de Saint-Cyr se noyait au cours d'une épreuve d'intégration de la prestigieuse école. Le procès de 7 militaires démarre aujourd'hui.
Et puis Jean Castex a rendez-vous avec les représentants des stations de ski aujourd'hui, prêtes à ouvrir dès que possible.
A tout de suite sur Europe 1, 6h08.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h10 sur Europe 1, la suite de votre journal avec Sophie Echen.
Il y a 8 ans, en 2012, l'élève officier Jalal Hami est mort noyé lors d'une soirée d'intégration de la prestigieuse école de Saint-Cyr, Couette-Quidan. L'épreuve consistait à franchir un étang à la nage et de nuit en équipement complet. 7 militaires, dont un général, sont poursuivis pour homicide involontaire. Leur procès s'ouvre aujourd'hui. Le frère de la victime, Rachid Hami, attend beaucoup de ce procès.
C'était une activité de franchissement d'eau, en nage commando, en pleine nuit, sans respecter aucune règle de sécurité. Il y avait une panique générale dans l'eau. Il y avait beaucoup d'élèves officiers dans l'eau à ce moment-là et qui se débattaient, qui se bagarraient. Très franchement, moi, ce que j'attends, c'est que les élèves de deuxième année qui, de manière consciente et sadique, ont décidé d'envoyer les gamins nager une deuxième fois, alors que le premier passage a été une hécatombe, qui a failli y avoir des morts et qu'ils ont décidé de continuer cette activité, moi, j'attends de vous que la justice leur mette de la prison. Les personnes qui ont causé la mort de Jalal, certains sont encore dans l'armée. Et je trouve que, très sincèrement, ils sont indignes de cet uniforme. C'est une honte qu'ils soient encore dans l'armée.
Témoignage recueilli par François Coulon. Après 3 semaines d'interruption pour cause de Covid, le procès des attentats de janvier 2015 reprend. Aujourd'hui, le principal accusé n'étant pas en état de comparaître physiquement, l'audience se fera par visioconférence.
Et puis elles auraient dû ouvrir dès ce week-end les stations de sport d'hiver, mais elles ne savent toujours pas quand elles pourront accueillir les premiers skieurs.
Professionnels du secteur et élus ont rendez-vous avec le Premier ministre ce matin avec une question en priorité. Les stations seront-elles ouvertes à Noël, période cruciale pour l'économie puisque la fin d'année représente 20 à 25% du chiffre d'affaires annuel. Jean-Luc Bock est maire de la Plagne Tarentaise et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne.
En ce qui concerne la commune de La Plagne, on a directement un petit peu plus de 4000 personnes qui dépendent de l'ouverture de la station. Les stations de sport d'hiver françaises emploient 120 000 personnes. On peut ajouter à cela la même chose en Valais et dans les régions autour des stations. Donc ce serait dramatique si on ne pouvait pas ouvrir pour Noël, mais on est prêt à attendre si tant est que la situation sanitaire au niveau des Valais, au niveau des hôpitaux, ne s'est pas améliorée. Et en tout cas, il faut prévoir et penser à ces travailleurs saisonniers. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Ils doivent avoir des aides du gouvernement et que le plan tourisme fonctionne pour eux aussi.
Jean-Luc Bock, maire de la Plagne à Tarentaise avec Diane Berger.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h12.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.